France Culture. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Culture Monde, le magazine international de France Culture. Une émission préparée avec Sacha Mattei, Léa Capuano, Barthélémy Gaillard, Gwendoline Troiano et Antoinette Benoît. Réalisée par Vivian Lecuivre et à la technique ce matin, c'est Nicolas Bonnet. À 11h20, on retrouve la table ronde d'actualité co-animée avec Marc Sémo, notre partenaire du Monde. Bonjour Marc.
Bonjour Mélanie.
À la veille d'une grande journée de mobilisation des opposants à la politique de Donald Trump aux États-Unis, nous nous demanderons si nous assistons à un réveil des démocrates. Jusqu'ici silencieux ou inaudible, les dirigeants du parti semblent enfin réagir, mais de la protestation symbolique à la reconstruction d'une stratégie et d'une alternative, le chemin à parcourir jusqu'au mid-term de 2026 semble encore long. Nous en discuterons avec nos invités, Laurence Nardon et Amy Green, qui nous rejoindront dans une vingtaine de minutes. Et pour commencer, eh bien, place au retour de terrain. Bonjour, Anna Recalde Miranda.
Bonjour, Mélanie.
Et bienvenue.
Bienvenue. Merci.
Vous êtes réalisatrice. Votre dernier documentaire, De la guerre froide à la guerre verte, sorti en salle le 26 mars, nous plonge dans l'histoire douloureuse du Paraguay, un pays dont on parle peu souvent, qui a connu la plus longue dictature militaire du continent latino-américain, celle du général Stroessner qui dirigea le pays de 1957 à 1989. Une histoire encore très peu documentée et qui commence à peine à s'écrire grâce notamment à la découverte en 1992 de ce qu'on appelle les archives de la terreur. 5 tonnes de documents qui ont mis à jour le système de répression des opposants politiques. Les documents racontent aussi comment la dictature s'est appropriée plusieurs millions d'hectares de terres agricoles consacrées aujourd'hui à la culture intensive du soja, un désert vert situé dans la zone frontalière entre le Paraguay et le Brésil, où le bourdonnement des insectes chassés par les pesticides a laissé la place au va-et-vient des camions qui transportent le soja destiné à l'exportation. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer, Anna Recalde Miranda, le lien que vous entretenez au Paraguay, un pays que vous connaissez de longue date? Cela fait des années que vous y suivez et que vous y documentez les évolutions politiques.
Oui, effectivement. Donc, j'ai commencé ma relation, disons, avec ce pays en 2007, quand je suis allée suivre avec ma caméra la campagne électorale de Fernando Lugo, qui était donc le candidat président à la présidentielle en 2008. Donc, Fernando Lugo était un évêque, un ex-évêque de la théologie de la libération, et il incarnait, disons, les espoirs de changement dans un pays qui était bloqué dans un passé qui passait pas, avec le même parti au pouvoir, le même parti de la dictature qui est terminé en 89, le Parti Colorado, a continué au gouvernement, à être élu après la tombée de la dictature et démocratie jusqu'à 2008 justement.
Donc 1989, je le disais tout à l'heure, la chute de la dictature, mais de 89 à 2008, un parti héritier de la dictature, c'est comme ça?
Le même parti de la dictature continue à gagner toutes les élections dans un système clientéliste, disons.
Alors, à partir de cette période progressiste qui s'ouvre, et à la fin de la dictature, de nombreux anciens opposants politiques qui s'étaient exilés rentrent au Paraguay. Et parmi eux, il y a par exemple la figure de Martín Almada. C'est un célèbre militant des droits de l'homme qui s'est opposé à la dictature. Et vous avez noué un lien particulier avec cet homme. Est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques mots qui est Martín Almada?
Alors, oui, je vais essayer. En quelques mots, c'est pas facile, parce que Martín Almada, c'est quelqu'un de vraiment important, important pour moi, mais aussi important pour l'histoire. C'est lui qui a donc découvert, suite à une longue investigation, l'archive de la terreur à Asunción en 92. Donc Martín a fait ses découvertes avec son épouse et son équipe, disons, donc son épouse María Stella Cáceres. Et cette découverte vient justement d'une enquête que lui, il a incarnée, ayant été lui-même victime du Condor, et de la dictature paraguayenne. Il a été arrêtée et torturée entre 73 et 76 au Paraguay à cause de ses activités en tant que syndicaliste et en tant que en fait lui il avait fondé une école. Une école agraire où il utilisait des méthodes d'enseignement, bah, disons, qui venaient de la théologie de l'opprimé de Freire et de l'éducation de l'opprimé, pardon, de la pédagogie. Et pour ça, il était mal vu par la dictature et donc il a été arrêté et voilà, disparu pendant 3 ans. Sa femme de l'époque a été tuée. Et quand Martín Almada est libéré grâce à une intervention d'Amnesty International et envoyé en France, il arrive en France en tant que réfugié politique, à partir de là, il commence à chercher les raisons et les responsables de toute cette douleur.
Identifier ces tortionnaires, identifier les commanditaires, c'est son combat à partir du moment où il rentre au Paraguay. Et vous le disiez, c'est en 1992 qu'il finit par mettre la main sur les archives de la terreur. Dans quelles circonstances précisément cette découverte se déroule ?
Alors, Martine, il revient donc au Paraguay depuis la France avec l'intention de faire un procès contre Stroessner. Donc il faut se mettre dans l'ambiance de l'époque, hein. La dictature vient de tomber, c'est la dictature la plus longue d'Amérique latine avec un gouvernement profondément anticommuniste et d'extrême droite. Donc quelqu'un qui arrive et qui dit « j'ai fait un procès contre Stroessner », qui était donc le dictateur, c'était une tonnerre. Hein. C'était quelqu'un qui incarnait, disons, un courage. Il fallait avoir beaucoup de courage. Et donc, Martín, il devient une espèce de héros. Héros de la vérité, héros de la recherche de justice, en fait, dans un pays qui vient de vivre ces grands changements. Ce qui fait que beaucoup de personnes vont le voir pour lui donner des informations, lui donner des documents, de manière anonyme. Parce qu'eux, ils ont peur de s'exposer. Et lui, il fait comme le réceptacle de toute cette vague d'envie de vérité et justice. Donc, il incarne tout ça. Et c'est dans ces cadres-là qu'il reçoit aussi, dans ce cas, c'était un appel anonyme, qui lui dit d'aller chercher dans un commissariat de banlieue cet appel téléphonique, mais aussi une recherche qui venait d'amont, parce que depuis la France, il avait déjà travaillé à tout ça.
Et ce coup de fil anonyme lui dit donc de se rendre dans ce commissariat dans la banlieue d'Asunción. Et dans ce petit commissariat, il découvre donc 5 tonnes de documents, des listes de prisonniers politiques, des fiches, des cassettes, des enregistrements, des moments de torture qui ont lieu dans les commissariats sous la dictature.
C'est ça.
Et qui sont envoyés aux proches des détenus. C'était une des méthodes de la dictature à l'époque.
Ouais, en fait, c'était... ils n'étaient pas envoyés les cassettes. En fait, les tortionnaires, ils torturaient toujours à la même heure, en fait, le soir. Et par exemple, ça, c'est le cadre de... C'est dans ces cadres que la femme de Martin, la première femme de Martin, est morte. Lors de la torture arrivée, et en fait, ils appelaient par téléphone sa femme. Et au bout de du jour en jour, elle est morte d'arrêt cardiaque au moment où elle écoutait le téléphone sonner. Et donc, les cassettes, c'était des enregistrements de ça, en fait. C'était pas qu'on les envoyait...
Et les documents apportent aussi un éclairage sur ce que vous mentionniez tout à l'heure. L'opération Condor, c'était une stratégie de collaboration qui a été mise en place à partir de 1975 entre les différents services secrets des régimes militaires d'Amérique du Sud, le Chili, l'Argentine, le Brésil, l'Uruguay, le Paraguay, pour surveiller, arrêter ou éliminer des opposants politiques. Qu'est-ce que ces archives découvertes au Paraguay apportent de nouveau dans la compréhension de ce système ?
Du Condor ? Ah ben c'est très important en fait, les archives de la terreur sont très importantes dans la compréhension du Condor, parce que justement on y trouve des tonnes des documents, de traces des prisonniers, et pas que des Paraguayens. Donc le plan Condor c'était ça, c'était une coopération des répressions entre les dictatures, et jusqu'à ces moments-là il n'y avait pas de preuves de cette du fait qu'il s'agissait d'un plan coordonné. Et dans l'archive de la terreur, on trouve, comme Martine aimait l'appeler, l'acta de nascimento del condor, c'est-à-dire l'acte de naissance du condor. C'est un document où on a tous les responsables des services d'intelligence de l'époque qui s'étaient réunis avec la signature et avec, du coup, aussi la participation des États-Unis. Donc ça aussi, le fait qu'il s'agissait d'un plan coordonné, chapeauté par les États-Unis, le document qui prouve ça, on le retrouve dans le plan Condor et 92. Et avant cette date, sans ces documents, C'était des hypothèses.
Ana Recalde Miranda, vous filmez dans votre film les salles d'un musée à Asunción. On y voit les noms des personnes arrêtées, des personnes disparues. On y voit aussi les noms des tortionnaires. Il y a des reconstitutions des salles de torture. Est-ce que ce musée est le signe qu'une mémoire est enfin en train de s'écrire au Paraguay ?
Oui, en fait, ce musée existait déjà avant, mais justement, c'était un lieu de mémoire. C'est-à-dire qu'il était tel quel, il était resté tel quel il était, et ces lieux étaient la Técnica, c'était les lieux de torture. Donc, c'était extrêmement dérangeant d'y rentrer, par exemple, parce que rien n'avait été musualisé, je ne sais pas comment dire, rendu musée. C'était tel quel, donc ça donnait vraiment les frissons. Et ce qui se fait maintenant, c'est justement une transformation, une mise en forme, une mise en scène, en fait, du lieu. Ce qui permet une certaine distance et même d'avoir la force d'y rentrer.
Dans les documents, les fameuses archives de la terreur que vous évoquez, il y a aussi des informations qui apparaissent sur la façon dont la dictature s'est accaparée. Des millions d'hectares, 8 millions d'hectares de terres agricoles, on les appelle les terres mal habidas, mal acquises. Est-ce que vous pouvez peut-être déjà nous situer dans quelle partie du territoire du Paraguay se situent ces terres et à qui elles appartenaient ?
En fait, ça s'est situé un peu partout. Il n'y a pas une zone plus... Les terres plus... les meilleures terres, disons, c'est plutôt vers le est, donc vers le Brésil. C'est les terres plus fertiles, parce que de l'autre côté, ouest et nord, c'est plutôt le Chaco. Donc, c'est une zone plus aride. Donc, disons que... Mais la Tierra Malavida, il y en a partout. Et il s'agit d'extensions de terres énormes. Des fois, c'était des dons à des amis, donc à des proches de la dictature, qui étaient donc des autres militaires, mais aussi des entrepreneurs et des intégrants de la WACL, donc la Ligue mondiale anticommuniste, qui était une alliance d'acteurs qui soutenaient la dictature. Donc, il se trouve que des personnes auraient su un cadeau, des milliers d'hectares.
C'était des terres publiques où elles appartenaient à des communautés ou à d'autres.
En fait, c'était la réforme agraire des Stroessner. Donc, c'était des terres, la plupart c'était des terres, oui, des terres des autochtones, des terres publiques, qui étaient, dans les cadres de la réforme agraire, auraient dû être données aux gens qui avaient le droit de recevoir des terres pour la réforme agraire, mais qui ont été données aux amis de la dictature pour mettre en place un système basé quand même sur le copinage et la fidélité au dictateur, disons.
Et ces terres dites mal acquises, elles sont aujourd'hui destinées à la culture intensive du soja. Vous décrivez dans votre documentaire un désert vert, c'est l'expression que vous employez. Est-ce que vous pouvez, puisqu'on n'a pas l'image à la radio, nous donner un aperçu de ce paysage, à quoi ressemblent ces grandes terres de soja ?
Ouais, c'est assez effrayant, à être sincère, parce qu'il fait très très chaud au Paraguay, et désormais, dû à ce désert vert, c'est des kilomètres et kilomètres et kilomètres et kilomètres, centaines de kilomètres d'une ligne verte, quand le soja a poussé, sinon c'est juste de la terre, et sans un arbre, donc une chaleur énorme, aussi un vent qui prend le vent il prend de vitesse très importante parce qu'il y a rien pour l'arrêter, ce qui fait que des fois tu as des nuages de poussière énormes qui s'écrèent, donc ça c'est un peu une situation, ça fait science-fiction en fait, un peu. Et donc, dans ce désert vert, il n'y a plus d'insectes parce que la culture du soja amène, de la monoculture, de l'agrobusiness, mène avec soi tout un modèle de traitement avec des pesticides. Et du coup, il n'y a plus aucun bruit d'insectes, ni d'oiseaux, ni rien.
Et ces territoires, on les surnomme parfois la République du soja. La République du soja, c'est quelque chose qui désigne des terres bien au-delà du Paraguay en réalité, y compris au Brésil, dans le nord de l'Argentine. D'où vient cette expression, la République du soja ?
Donc la République du soja, c'est une expression de marketing en fait, qui... Les mêmes entreprises sojeras qui s'occupent de soja ont formulé. Donc, je pense que c'est Syngenta,
qui est un groupe spécialisé dans la chimie et l'agroalimentaire.
Voilà, qui a formulé cette expression, et c'est comme une pub. Hein, c'est pour eux, c'est une manière de visualiser en fait leur extension et leur puissance. Et je trouve que c'est une très bonne manière de l'appeler, parce que il s'agit de ça en fait, d'une entité qui est transnationale, donc qui n'est pas justement que sur un pays et qui a une logique et un pouvoir presque autonome.
C'est-à-dire, quand vous dites autonome, qui ne répondrait pas aux lois ni du Paraguay ni du Brésil,
oui,
dans l'exploitation qu'ils font de ces terres-là.
Exactement, oui, qui peut imposer de toute façon son poids sur les politiques locales. Et c'était bien évidemment le cas au Paraguay au moment du coup d'État en 2012, où on a vu effectivement une ingérence de ces puissances au moment où Fernando Lugo et son gouvernement ont voulu mettre en place certaines choses de la réforme agraire.
Nous marchons contre la loi Zavala-Riera qui criminalise la lutte pour la terre, une lutte qui est le seul moyen dont disposent les paysans pour obtenir un endroit où vivre dignement. Nous sommes en 2021, c'est un extrait de votre film De la guerre froide à la guerre verte, Ana Recalde Miranda. Et on voit donc des gens manifester contre une loi qui criminalise d'une peine de 5 à 10 ans de prison l'occupation illégale des terres agricoles. L'occupation illégale des terres agricoles, c'est un mode d'action fréquent au Paraguay.
Oui, en fait, c'était la seule manière, en fait, que les paysans et les groupes qui luttent ont de visibiliser cette injustice, qui est une injustice historique, parce que le fait que ces terres malavidas n'ont jamais été fait objet d'une rediscussion ou des tentatives de réforme agraire, de redistribution des terres, date de la fin de la dictature. Donc ça fait déjà 30 ans. 35. Et donc, c'est comment dire, et même ce qui s'est passé avec le gouvernement Lugo en 2012 prouve que cet héritage et cette structure de richesse est très difficile à changer. En fait, c'est impossible. Il y a eu un coup d'État au moment où ils ont essayé de changer tout ça. Et suite au coup d'État, c'est encore le Parti Colorado, donc le vieux parti de la dictature, qui revient au pouvoir et qui bénéficie de ces systèmes. Donc, il ne veut pas qu'on y touche. Et au contraire, il promue des lois, comme la loi que vous venez de citer, justement, qui criminalise toute tentative de se manifester, de s'opposer.
Alors, juste pour redonner quelques éléments de contexte aux auditeurs, donc 2012, c'est effectivement la fin de l'expérience du gouvernement de gauche de Lugo, avec une procédure de destitution parlementaire assez rapide, en 48 heures, le président est destitué. Il lui est reproché justement d'avoir mal géré une affaire terrible d'affrontement entre des paysans et des policiers à Curuguati, près d'Asunción, 16 morts, 7 policiers, 9 paysans. Il y a les circonstances sont assez troubles de cet affrontement. En tout cas, c'est pris comme prétexte pour destituer le président. Voilà pour les précisions. Merci infiniment, Anna Recalde Miranda, d'être venue dans Le Retour de Terrain. Votre film De la guerre froide à la guerre verte est donc actuellement en salle. Je signale aux auditeurs parisiens une rencontre, deux rencontres, le 7 à l'espace Saint-Michel à 20h30 et le 8 avec la Confédération Paysanne, et la veille ce sera avec Attaque à Paris pour parler de votre film. Merci infiniment.
Merci.
Quiero que me quemen cuando muera, para que mi alma de madera no siento frío. Hay noches en que el tiempo desespera, las ideas me envenenan y algo persigo. Sea que sea lo que busque, sé que es algo natural. Ya he vivido demasiado en este mundo artificial. Todo lo que puedo hacer después de haber andado tanto, oh, es elevar mi cuerpo y mi canto. Hay una fuga en mi corazón que se sublima con esta canción. Sé que no tengo más que dar que mi canto puro y sincero. Quemarme y fundirme en vos, son mi tormenta, mi revelación. Va por mi vena corriendo como un río salvaje y secreto. Salvaje y secreto. Salvaje y secreto.
Así lo que decís, así como bailás, así nuestro viento que deja todo atrás. Así lo que decís, así como bailás, así nuestro viento que deja todo atrás. Ya no temo lo espero, ni santo ni hechicero, ni hechicero.
Quiero que me quemen cuando muera, para que mi aura sea una estrella contra el olvido. Sea que sea lo que pase, es porque tuvo que pasar. He corrido demasiado, ya no sé cómo parar. ¿Qué puedo hacer después de haber andado tanto? Oh, es elevar mi cuerpo y mi canto. Hay una fuga en mi corazón que se sublima con esta canción.
Ni santo, ni hechicero, ni saint, ni sorcier, le groupe paraguayen Chiporos, avec cette chanson sortie en 2021. Et on reste sur le continent américain, direction à présent les États-Unis.